En 53 après Jésus-Christ, Saint Omar arrive sur les côtes du sud-ouest de l'Inde, dans la zone du Malabar, l'actuel Kerala. Près de 2 millénaires plus tard, de nombreux Indiens suivent encore sa prédication. L'église Syro-Malabar avec 4 millions de fidèles est l'église catholique de rite oriental la plus importante de l'Inde, devant l'église Syro-Malankar, issue de l'église orthodoxe syrienne de l'Inde, qui compte elle 400 000 fidèles. Le territoire canonique de ces églises de rite oriental est encore aujourd'hui le sud du pays et principalement le Kerala, mais ces deux églises tentent depuis quelques années de se développer au nord du pays, avec notamment le soutien d'un médiateur nommé par le pape. L'objectif affiché est d'offrir une vision plus claire du catholicisme en Inde aux non-chrétiens. Monseigneur Pedro Lopez Quintana est nonce apostolique en Inde.
Le but de cette affaire, donc, et c'est aussi dans le nord de l'Inde, dans lequel les non-chrétiens puissent avoir une vision de l'Église plus unie, non, et pas de confusion des différents rites, parce que s'ils doivent recevoir la première évangélisation, ils peuvent rester un peu confus quand ils voient oh, vous êtes catholique, vous êtes catholique, vous êtes catholique, mais vous êtes différent, vous êtes Église différente. Alors, ça, c'est, je pense que c'est important au moment de l'évangélisation de se présenter. Aussi, les églises orientales, jusqu'à maintenant, ils ont commencé à changer, mais ils savaient, comme ils venaient du Kerala, un caractère très marqué du Kerala. Et alors, ça provoquait que pour les non-chrétiens, c'était des églises de Kerala, qui n'étaient pas prêts, mais leur impression, c'était un peu que c'était des églises ethniques. Et maintenant, ils l'ont fait, ils sont en train de faire un très grand effort, ces églises aussi orientales dans le nord de l'Inde, de parler même la langue, pas le malayala, et de devenir comme l'église latine, un peu plus enracinée dans la réalité du poste. Je pense qu'ils réussiront à vraiment prendre cette nouvelle face, on pourra être plus diverse parce que alors l'agent verra qu'il célèbre des différentes façons, mais ils sont la même église, non?
Dans justement ce travail d'évangélisation, il y a quand même un certain nombre de difficultés, peut-être d'ordre politique, social. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui évangéliser en Inde sans que ça pose justement de problème de confrontation?
Oui, cette confrontation, je pense que c'est difficile d'éviter, non? Parce que ce ne sont pas les hindous. C'est des groupes fondamentalistes avec une très grande influence politique qui voient le christianisme comme un grand danger. Ils voient un danger parce que le chrétien et l'évangélisation portent un changement de la société aussi. Nous cherchons à créer une société dans laquelle tout le monde sont frères et sœurs. L'Église, avec son évangélisation, lutte très fortement contre le système de caste. C'est précisément ça qu'il est reçu par ces groupes fondamentalistes comme un danger. Parce que un groupe qui vient à lutter dans sa façon d'agir va contre le système de caste, il vient à détruire son système social.
Mais alors comment est-ce qu'on fait justement pour allier toute la culture que porte la religion avec la culture locale?
Oui, l'Église, il protège, il respecte la culture locale, mais il n'accepte pas les choses qui sont négatives. C'est une façon aussi d'aider les cultures à se purifier. Et même aussi quand la réalité par exemple des castes, c'est une réalité que même les hindous, beaucoup de gens, ils vivent avec pas positive, ils ne sont pas contents. Quand on pense à Mahatma Gandhi, il était très clairement contre ça. Tous les mouvements modernes de l'hindouisme, ils sont nés précisément contre ça. Et alors, pour ça, j'ai dit que ces groupes fondamentalistes qui font la guerre sont des groupes traditionnalistes aussi, même dans l'hindouisme.
Comment faire pour expliquer à ces fondamentalismes? Est-ce qu'un dialogue est possible?
Un dialogue, c'est difficile. C'est difficile. Les dialogues sont présentés continuellement en disant qu'on cherche de faire le bien pour tout le monde. On n'a pas des programmes secrets, comme ils disent, que nous avons des intentions cachées, parce qu'ils disent ça, non, que le Vatican surtout, on cherche de manipuler. Alors, de présenter que ce n'est pas vrai, que nous sommes là avec tous les mains ouvertes, que l'unique chose que nous demandons, c'est de nous laisser que nous vous aimions. Et c'est un message que ça frappe aussi. Et c'est l'unique chose. Et à la fin, oui, il faut aussi attendre la conversion des âmes de ces gens qui, à la fin, découvrent qu'on cherche de faire du bien. Et on ne cherche pas de détruire, mais même aussi de bâtir mieux, si c'est possible, afin que même aussi la culture à eux soit plus belle. Parce qu'on fait un nettoyage de la laideur de son culture aussi. Et je pense que c'est l'unique façon, c'est de se présenter comme nous sommes. Et aller avec la bonne volonté à la fin. À la fin, toujours les biens réussis avant, quand on va avec le bonheur, les bonnes intentions, plus tard, plus tôt, les gens découvrent ça.
Ça veut dire qu'en gros, il pourrait y avoir encore des confrontations, mais qu'à la fin, le bien triomphera, c'est ça?
Oui, nous devons être prêts à ça, parce que ces confrontations, ces attaques, ces difficultés continueront pendant une certaine période plus ou moins longue, mais aussi avec les dialogues. Que nous sommes en train de renforcer, on pourra arriver au premier bout, au premier point, à un certain modus vivendi de respect. Et à la fin, on pourra faire d'autres pas plus importants. Quand ils découvrent aussi que nous respectons, ça donne des résultats. Il faut avoir patience aussi.
Mais justement, comment est-ce que vous expliquez aux fidèles catholiques? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous les accompagnez dans ce chemin qui est pour eux très difficile, parce qu'il y a quand même des morts, etc.
Les chrétiens doivent être toujours prêts à la souffrance aussi, c'est nécessaire, non? On ne les cherche pas, mais il faut toujours savoir que le Seigneur est avec nous. Et quelquefois, nous avons besoin de passer des épreuves, qu'à la fin, même aussi dans cette épreuve, ils peuvent devenir positif pour nous, parce que ce sont des moments de purification à nous. Et alors, l'unique chose, c'est d'être près de la gens qui souffrent, de les animer, de les encourager, que c'est un moment de preuve, un moment de témoignage qu'il faut donner. Aussi, dans le point de vue matériel, c'est toujours être avec eux pour, si on détruit quelque chose, pour rebâtir à nouveau, de ne pas perdre l'espérance, d'être toujours, comme on disait, même aussi au Orissa maintenant, nous sommes en train de rebâtir ce qui avait été détruit dans les Noël de l'année dernière et le mois d'août, parce que ça, c'est une preuve que nous avons l'espérance, que nous croyons. Nous ne cherchons pas des intérêts, nous ne sommes pas des profits spéciaux. Non, nous faisons ça parce que c'est la façon de manifester, de vivre notre amour, que le Seigneur nous a montré. L'amour est toujours là. La main ouverte pour l'autre, il est toujours. Même si on cherche de nous la frapper, on continue à être comme ça.